les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Charlie Chaplin, junior, disant le lac de Lamartine, en français, bien sûr. Une Agnès de l'école des femmes qui n'est autre qu'Audrey Hepburn, en français, bien sûr. Et Célimène, à laquelle Lily Palmer prête sa voix, toujours en français. Escapin, qui n'est autre que Danny Kaye. Sans oublier Claudette Colbert, Marlène Dietrich, Douglas Fairbanks Jr. au menu. Certes, la qualité d'une fiction ou d'une émission de radio ne repose pas que sur sa distribution, mais tout de même. Voici un objet radiophonique singulier, hollywoodien, diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne pour le nouvel an 1954.
Veuillez écouter la comédie presque française, un divertissement de Pierre Crenès. Avec Claudette Colbert, Marlène Dietrich, Audrey Hepburn, Celeste Holm, Lily Palmer, Louise Renner et Ginger Rogers. Avec Jacques Bergerac, Charlie Chaplin Jr., Marcel Dalliot, Claude Dauphin, Jean Davy, sociétaire de la Comédie Française, Melvin Douglas, Douglas Fairbanks Jr., Danny Kaye, Rémy Lan, Vincent Price et Edward G. Robinson. Message de M. Pierre Descaves, administrateur général de la Comédie Française, M. Denis Dinès, doyen des sociétaires, et Mme Béatrice Bretty, doyenne des sociétaires. Mise en onde et texte de Pierre Crenès. Assistante de production, Marina Kobzeff. Producteur à Paris, Jacques Régnier. Et à Londres, Jacques Salbert. Avec la collaboration à Hollywood de Kira Appel. Introduction de Michel Morgan et Charles Boyer. En voix de Louis Jourdan. Présentation de Pierre Crenès.
Voici Charles Boyer.
France, mère des arts, des armes et des lois, tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle. Or, comme un agneau qui sa nourrice appelle, je remplis de ton nom les antres et les bois.
En ces temps difficiles, qui ne laissent ni le cœur s'épancher ni l'esprit s'épanouir, dans l'effrayant vacarme des machines qui dominent et le cri ignoré des victimes, innombrables sont les hommes qui remplissent de ton nom les antres et les bois, comme chante le poète Angevin, pour que vivent et le cœur et l'esprit. Innombrables sont les hommes qu'attirent l'éclat des parures que les siècles ont mises à ton front, malgré la vétusté de tes usines, l'inefficacité de tes systèmes, ton apparente et fausse fatigue. La grandeur d'une nation est faite bien plus de la richesse de sa pensée que de la certitude de ses statistiques incertaines. Fermement adossée à son patrimoine, heureusement consciente de ses charmes, la France est pour les hommes terrassés du XXe siècle le seul refuge de la beauté.
Car j'ai pour fasciner ces dociles amants de pur miroir qui font, toute chose plus belle. Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles.
Baudelaire n'aurait pu souhaiter de plus pur miroir que vos yeux, Michel Morgan. Les plus célèbres artistes américains ont désiré rendre hommage à la France. Sa langue, sa culture, la diversité de ce que nous considérons comme notre pain quotidien, mais qui est pour l'étranger l'ortolan des grands jours. Et l'accent, qui va donner à nos mots une saveur nouvelle, est avant tout celui de la sincérité. Notre langue, nos phrases harmonieuses, la musique de nos poètes ne sont aujourd'hui pour nos amis que des symboles de beauté.
La beauté des lignes incomparables de nos décors, la beauté de notre ciel, de notre climat dont les saisons font fleurir les mots les plus rares dans un parterre rythmé d'alexandrins.
Le monde, chère Agnès, est une étrange chose.
Eh oui, cher Arnolf, une étrange chose. Ce monde où les sentiments sont soumis aux aléas de la politique, où des relations figées, égoïstes et en col dur des chancelleries. Ce monde où la beauté et la force se mesurent en électrons. Et quand M. Jourdain, naïf et sincère, dans ce monde s'écrie
« Ah, que cela est beau !»
Célimène, dans la pièce d'à côté, ne peut que lui répondre
« Vous êtes sans mentir un grand extravagant. »
Et non, Monsieur Jourdain, vous êtes raisonnable. En ouvrant notre porte à l'année nouvelle, laissons entrer le vent qui a caressé le Louvre et Chenonceau, enlacé les grands arbres des rives de la Dordogne, fait frissonner les beaux épis de Beauce. Écoutons les oiseaux chanter le bonheur et la grâce, et n'oublions pas, oh non, n'oublions pas le Périgord de Montaigne et l'Auvergne de Pascal, l'Anjou et le Vendômois de la Pléiade, l'Alsace de Schweitzer et la Bretagne des grands découvreurs. N'oublions pas ces terres chéries et piétinées auxquelles la foi et la confiance sont de naturels engrais. À l'instant que des amis viennent rendre hommage à notre civilisation, recevons-les bien, sans trop de vanité, mais avec une fierté pleinement justifiée.
Oui, Michel Morgan et Charles Boyer, essayons de les bien recevoir. Et accueillons aussi ces artistes français, nos compatriotes, qui sur les scènes ou dans les studios américains défendent cet art dont nous sommes si fiers. Ces artistes amis ont pris sur leur loisir le temps de penser à la France. Le français n'est pas leur langue et si certains le parlent bien, d'autres seulement l'aiment. Nous ne vous présentons donc pas une émission théâtrale. Et en les écoutant, pensez au cœur qu'ils ont mis à bien faire. J'ajouterai que seul le prestige de la France a pu susciter tant de concours bénévoles, toujours cordiaux et enthousiastes.
La comédie presque française.
Nous sommes devant la comédie presque française, dont le gratte-ciel de pierre blanche porte allègrement 65 étages. À gauche, Musset montre du doigt à sa muse le drugstore où il pourrait se réconforter. Nous apercevons, au bout de la large avenue, l'opéra... pardon, The Opera.
Demandez François, Paris Presse, la 30e dernière nouvelle.
Que fait-il celui-là? Doit y avoir une erreur.
Pardon, monsieur, la comédie française.
Française ou presque française?
Qu'est-ce que c'est que ça, la comédie presque française?
Vous ne savez pas? Suivez-moi. Le bourgeois gentilhomme. Monsieur Jourdain sera...
Edward G. Robinson.
ou comme vous dites en français, Edouard G. Robinson, qui vous souhaite bonne année.
Et le maître de philosophie sera...
Vincent Price. Mais si Edward G. Robinson s'appelle Robinson, alors je m'appelle Vincent Price. Et je voudrais aussi vous souhaiter une très bonne année. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, E, O, U.
J'entends tout cela.
La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A.
A. A. Oui.
La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E.
A, E. A, E. Ma foi, oui. Ah, que cela est beau.
Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I.
A, E, I. 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 Ah, cela est vrai. Vive la science.
La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins. Le haut et le bas. O.
O. O. Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O. I-O. Cela est admirable. I-O. I-O. I-O.
L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente une O.
O. O. O, vous avez raison. O. Ah, la belle chose que de savoir quelque chose.
La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre, sans les joindre tout à fait. U.
U. U. Il n'y a rien de plus véritable. U.
Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la meue. D'où vient qui, si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que...
U. U. Cela est vrai. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela.
Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes.
Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci?
Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents, d'en haut. Da.
Da. Da. Oui. Ah, les belles choses, les belles choses.
L'F, en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessus. Fa.
Fa. Fa. C'est la vérité. Oh, mon père et ma mère, que je vous veux de mal.
Et l'air en portant le bout de la langue jusqu'au du palais. De sorte, quand on frôlait par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Air. Ra.
Ra. Ra. Cela est vrai. Ah, la belle âme que vous êtes. Et que j'ai perdu de temps. Rah!
Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités.
Je vous en prie, maître. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds.
Fort bien.
Cela sera galant, oui.
sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire?
Non, 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 point de vers.
Vous ne voulez que de la prose?
Non, 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 je ne veux ni prose ni vers.
Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre.
Mais pourquoi?
Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour exprimer que la prose ou les vers.
Il n'y a que la prose ou les vers?
Non, monsieur. Tout ce qui n'est point prose est vers. Et tout ce qui n'est point vers est prose.
Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc cela?
De la prose.
Quoi? Quand je dis, Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose?
Oui, monsieur.
Par ma foi. Il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Oh, je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela.
Merci Edward G. Robinson et Vincent Price. Sautons quelques siècles. Voici une scène d'Aimé de Paul Géraldi. Hélène sera
Ginger Rogers
et Henri sera interprété par
Jacques Bergerac. Tu n'as jamais été aussi bien qu'à présent.
Tu n'es pas ce que tu penses.
Si. Ta beauté s'est épanouie. Elle a pris quelque chose d'ample, de plus complet, de plus conscient aussi.
Conscient? C'est un rapproche?
Pas du tout. C'est tout naturel.
Dis que j'aurai bientôt 30 ans, c'est affreux.
30 ans? Oh non, c'est le bel âge de la femme, au contraire. Les certitudes, la plénitude, l'apogée.
La fin de la jeunesse.
Eh oui, la fin de la jeunesse. De l'égoïste, inquiète et difficile jeunesse. Tu vois, il ne faut jamais s'attrister sur le passé, quand ce passé a bien passé. Ce qui est désolant, ce sont les jours perdus. Les jours heureux ne sont jamais des jours perdus. Moi, ces dernières années, je sens qu'elles sont en moi pour toujours, que rien ne me les reprendra. Des jours moins heureux peuvent venir, ils n'empêcheront pas ceci d'avoir été. Vois-tu, quand on a été riche, vraiment riche, on peut être pauvre.
Tu te sens riche?
Moi? Oui, très riche.
Tu es heureux?
Pleinement heureux. Et toi? Eh bien, tu ne réponds pas? Tu n'es pas heureuse?
Mais si.
Il te manque quelque chose?
Oui, absolument rien. Je t'ai.
Ah, si tu n'es pas heureuse, Hélène, je cesse d'être heureux à mon tour. Ton bonheur m'était indispensable.
Mais je suis heureuse.
Est-ce de moi que tu as à te plaindre?
Puisque je te dis que je suis heureuse.
Tu ne m'aimes plus comme avant?
Oh, je ne t'aime plus. De la même façon qu'autrefois.
Explique la différence.
Autrefois, tu m'intimidais. Je me sentais une toute petite fille devant toi.
Oh, je ne l'aurais pas cru.
Je me révoltais. Je te tenais tête. Mais je savais très bien que tu avais raison. Je t'adorais sous ma révolte.
Tandis qu'à présent?
À présent, je t'approuve encore. Et je ne me révolte plus. Mais tu ne m'intimides plus. Je te connais. Et puis, je me suis développée. Je me sens... Tu vas te moquer de moi.
Non, dis.
Je me sens presque ton égal.
Tu ne m'admires plus, quoi?
Non.
Dame, tu me vois tous les jours. Tu connais mes petitesses à présent, mes manies. D'ailleurs, pourquoi m'admirerais-tu? Je ne te suis pas supérieur. Il y a beaucoup de choses que tu comprends mieux que moi. Je crois que nous nous complétons.
Est-ce que je suis très intelligente?
Tu es la femme la plus intelligente que je connaisse.
Ça ne veut rien dire ça. Je veux savoir, est-ce que je suis très intelligente?
Tu ne te cultives pas assez. Tu ne lis pas assez. C'est dommage.
Je sais. Mais dis.
Eh bien, tu es... Oui. Tu es très intelligente.
C'est vrai?
Oui.
Je t'aime, tiens, je t'aime. Oui, c'était moins bien autrefois, c'était triste. On n'aimait pas l'autre.
Mais je pense à ce que tu me disais tout à l'heure. Tu n'as tout de même pas l'impression que je dégringole.
Tu es fou.
Dis-moi comment tu m'aimes depuis que tu ne m'admires plus.
Eh bien, tu m'es indispensable. Je ne conçois pas la vie sans toi. J'ai besoin que tu sois là pour vérifier mon cœur. Tu es mon grand ami.
Ton ami?
Oui. Qu'est-ce que tu as?
Ah, je n'aime pas ce mot-là. Je ne suis vraiment que ton ami?
Mais oui. L'ami intellectuel, moral. Enfin, l'ami, mon ami. Qu'est-ce qui te choque?
Je ne suis pas encore autre chose.
Oh, c'est fini ce temps-là, voyons. Nous nous connaissons trop.
Ah.
Bête, je te taquine.
Je suis peut-être trop austère. Tu trouves peut-être notre vie trop égale, trop monotone. Nous voyons peu d'amis, toujours les mêmes.
Tu crois que j'ai des goûts mondains?
J'ai toujours prétendu qu'il fallait se borner, s'entourer de frontières, qu'on ne connaît jamais assez ce qu'on connaît, qu'on peut toujours aimer davantage ce qu'on aime. Mais enfin...
Je connais tes idées. Tu sais bien que j'ai les mêmes.
En es-tu sûr? Je mets toujours tant d'obstination à te convaincre. Peut-être as-tu fini par te croire convaincu par fatigue. Tu viens de parler de tes 30 ans comme si tu trouvais que ta vie n'est pas suffisamment remplie.
Je plaisantais.
Regardez-moi un peu dans les yeux. Vous êtes lasse?
De quoi donc?
De nous.
Mon chéri.
Merci Ginger Rogers et Jacques Bergerac. Vous dansiez, Ginger. Nous en étions fort aises. Eh bien, jouez en français maintenant. L'amour n'est pas toujours celui de ce couple heureux. Psyché de Molière. Sera
Louise Renner, qui vous souhaite une très bonne année.
Et l'amour sera personnifié par
Melvin Douglas, avec mes voeux sincères pour la nouvelle année.
À peine je vous vois, que mes frayeurs cessent, laissent évanouir l'image du trépas. Et que je sens couler dans mes veines glacées un je ne sais quel feu que je ne connais pas. J'ai senti de l'estime et de la complaisance, de l'amitié et de la reconnaissance, de la compassion, les chagrins innocents m'ont fait sentir la puissance. Mais je n'ai point encore senti ce que je sens. Je ne sais ce que c'est. Mais je sais qu'elle me charme, que je n'en conçois point de là. Plus j'ai les yeux sur vous, plus je me sens charmée. Tout ce que j'ai senti n'agissait point de même. Et je dirais que je vous aime, Seigneur, si je savais ce que c'est que d'aimer. Ne les détournez point. Ces yeux qui m'empoisonnent, ces yeux tendres, ces yeux perçants, mes amoureux, qui semblent partager le trouble qu'ils me donnent. Hélas, plus ils sont dangereux, plus je me plais à m'attacher sur eux. Par quel ordre du ciel, que je ne puis comprendre, vous dis-je plus que je ne dois? Moi, de qui la pudeur devrait du moins attendre que vous m'expliquassiez le trouble où je vous vois, vous soupirez, Seigneur. Ainsi que je soupire. Vos sens, comme les miens, paraissent interdits. C'est à moi de mentir, à vous de me le dire. Et cependant, c'est moi qui vous le dis.
Vous avez eu, Psyché, l'âme toujours si dure, qu'il ne faut pas vous étonner. Si, pour en réparer l'injure, l'amour, en ce moment, se paye avec usure de ce qu'elle a dû lui donner.
Il faut être la grande artiste que vous êtes, Louise Reiner, pour nous faire croire que vous ne savez ce que c'est que d'aimer. Nous allons faire appel à M. Alphonse de Lamartine. Sera dit pour vous, en hommage à notre langue, avec toute la sincérité de son cœur, par...
Charlie Chaplin Jr. Et bonne année à vous tous.
Sur l'admirable musique de Limelight, écrite par son père, Charlie Chaplin.
Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emporté sans retour, ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour? Au lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde. Je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes. Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés. Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ces pierres adorées. Un soir, t'en souvient-il, nous voguions en silence. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence des flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre du rivage charmé frappait les échos. Le flot fut attentif et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Ô temps, suspends ton vol et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implore, coulez, coulez pour eux. Prenez avec les jours les soins qui les dévorent, oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore, le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lent. Et l'aurore va dissiper la nuit. aimons donc de l'heure fugitive. Hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. Au lac, rocher muet, grotte, forêt obscure, vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez belle nature, au moins le souvenir. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé.
Merci Charlie Chaplin Jr. Je sais combien vous avez travaillé et nous vous en sommes très reconnaissants. L'école des femmes de Molière. Agnès sera interprétée par la ravissante princesse d'un film que vous verrez prochainement, Vacances romaines, et que notre grande Colette avait choisi pour être Gigi sur la scène de Broadway. Agnès sera
Audrey Hepburn, et je vous souhaite à tous une très bonne année.
Et Arnolphe sera joué par
Ray Milland. Bonne année, bonne santé.
Qu'avez-vous ? Vous grondez, ce me semble, un petit. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit ?
Non. Mais de cette vue, apprenez-moi les suites. Et comme le jeune homme a passé ses visites ?
Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal si tôt que je le vis, le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette, et l'argent qu'en ont eu notre Alain et Georgette. Vous l'aimeriez sans doute, et diriez comme nous.
Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous?
Il jurait qu'il m'aimait d'un amour sans seconde, et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont, toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille, et là-dedans remue, certain je ne sais quoi, dont je suis tout ému.
Ô fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses?
Autant, il me prenait et les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là.
Ne vous est-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Ouf.
Et il m'a...
Quoi?
Pris?
Hein?
Le...
Plaît-il?
Je n'ose. Et vous vous fâcherez peut-être contre moi?
Non.
Si fait?
Mon Dieu, non.
Jurez dans votre foi.
Ma foi, soit.
Il m'a pris. Vous serez en colère?
Non.
Si?
Non. Diantre, que de mystère! Qu'est-ce qu'il vous a pris?
Il...
Je souffre en damné.
Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné.
Merci Audrey Hepburn et Ray Milland. Chanson d'automne de Paul Verlaine sera dit par
Marlène Dietrich. Je vous souhaite une bonne année. Sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte.
Merci Marlène Dietrich. Puisque ce programme a pour but de permettre aux plus grands artistes américains de satisfaire leur désir de rendre hommage à notre langue et à notre culture, et par là de célébrer l'amitié artistique entre nos deux pays, voici une collaboration théâtrale franco-américaine. Le Cid de Pierre Corneille. Le comte sera
Jean Davy, sociétaire de la Comédie Française,
et Don Rodrigue
Douglas Fairbanks.
À moi, comte, deux mots.
Parle.
Ôte-moi d'un doute. Connais-tu bien Don Diego?
Oui.
Parlons bas. Écoute. Sais-tu que ce vieillard fut la même vertu, la veillance et l'honneur de son temps, le sais-tu?
Peut-être.
Cette ardeur que dans les yeux je porte, sais-tu que c'est son sang, le sais-tu?
Que m'importe?
À quatre pas d'ici, je te le fais savoir.
Jeune présomptueux.
Parle sans t'émouvoir. Je suis jeune, il est vrai. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années.
Te mesurer à moi, qui t'a rendu si vain, toi qu'on n'a jamais vu les armes à la main?
Mes pareils à deux fois ne s'en font point connaître. Et pour leur coup d'essai, veulent des coups de maître.
Sais-tu bien qui je suis?
Oui. Tout autre que moi, au seul bruit de ton nom, pourrait trembler des fois. Les palmes dont je vois ta tête si couverte semblent porter écrit le destin de ma perte. J'attaque en téméraire un bras toujours vainqueur. Mais j'aurai trop de force, ayant assez de cœur. À qui venge son père, il n'est rien impossible. Ton bras est invaincu, mais non pas invincible.
Ce grand cœur qui paraît au discours que tu tiens par tes yeux chaque jour se découvrait au mien. Et croyant voir en toi l'honneur de la Castille, mon âme avec plaisir te destinait ma fille. Je sais ta passion, et suis ravi de voir que tous ces mouvements cèdent à ton devoir, qu'ils n'ont point affaibli cette ardeur magnanime, que ta haute vertu répond à mon estime, et que, voulant pour gendre un cavalier parfait, je ne me trompais point au choix que j'avais fait. Mais je sens que pour toi ma pitié s'intéresse. J'admire ton courage et je plains ta jeunesse. Ne cherche point à faire un coup d'essai fatal. Dispense ma valeur d'un combat inégal. Trop peu d'honneur pour moi suivrait cette victoire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. On te croirait toujours abattu sans effort, et j'aurais seulement le regret de ta mort.
D'une indigne pitié, ton audace est suivie. Qui m'ose ôter l'honneur, craint de m'ôter la vie?
Retire-toi d'ici!
Marchons sans discourir.
Es-tu si las de vivre?
As-tu peur de mourir?
Bien, tu fais ton devoir. Et le fils dégénère qui survit un moment à l'honneur de son père.
Merci Douglas Fairbanks et merci Jean Davy. Jean Davy peut vous présenter ses vœux de vive voix en vous téléphonant ou en vous rencontrant dans la rue. Mais Douglas Fairbanks est loin et c'est à notre micro qu'il veut vous souhaiter bonne année. Je voudrais rappeler que Doug est officier de la Légion d'honneur et porte une croix de guerre avec deux palmes. Douglas Fairbanks, Jr.
Je ne souhaite aux Français qu'une seule chose. Que la nouvelle année leur apporte la paix et la tranquillité qui sont tellement nécessaires à la grandeur de leur pays et à l'équilibre du monde entier.
Merci Douglas Fairbanks. Nous le souhaitons tous. Et voici une surprise. Qui devrait, pensez-vous, dire la lettre de Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, sur le mariage de Monsieur de Lauzin? Donnez-vous votre langue au chien? Voyons. À qui aurait-on dû marier Monsieur de Lauzin? À Mademoiselle de Créqui? Vous n'y êtes pas. À Mademoiselle Colbert? Encore moins. Et pourtant, la lettre sur le mariage de Monsieur de Lauzin vous sera dite par...
Claudette Colbert. Je m'en vais vous demander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu'à aujourd'hui, la plus brillante, la plus digne d'envie. Enfin, une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés. Encore cet exemple n'est-il pas juste? Une chose que nous ne saurions croire à Paris, comment la pourrait-on croire à Lyon? Une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde. Une chose qui comble de joie Madame de Rohan et Madame d'Hauterive. Une chose enfin qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croiront avoir la berlue. Une chose qui se fera dimanche et qui ne sera peut-être pas faite lundi. Je ne puis me résoudre à le dire. Devinez-la. Je vous le donne en trois. Jetez-vous votre langue au chien? Eh bien, il faut donc vous la dire. Monsieur de Lauzin épouse dimanche au Louvre, devinez qui? Je vous le donne en quatre. Madame de Coulanges dit, voilà qui est bien difficile à deviner. C'est Madame de Lavallière. Point du tout, madame. C'est donc Mademoiselle de Retz. Point du tout, vous êtes bien provinciale. Ah, vraiment, nous sommes bien bêtes, dites-vous. C'est Mademoiselle Colbert. Encore moins. C'est assurément Mademoiselle de Créqui. Vous n'y êtes pas. Oh, il faut donc à la fin vous le dire. Il épouse dimanche au Louvre, avec la permission du roi, Mademoiselle, devinez le nom. Il épouse Mademoiselle, ma foi jurée, Mademoiselle, la grande Mademoiselle. Mademoiselle fille de feu monsieur. Mademoiselle petite fille de Henri IV. Mademoiselle II, Mademoiselle de Dombes, Mademoiselle de Montpensier, Mademoiselle d'Orléans, Mademoiselle cousine germaine du roi, Mademoiselle destinée au trône, Mademoiselle le seul parti de France qui fut digne de monsieur. Voilà un beau sujet de discourir. Si vous criez, si vous êtes hors de vous-même, si vous dites que nous avons menti, que cela est faux, qu'on se moque de vous, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade à imaginer. Si enfin vous nous dites des injures, nous trouverons que vous avez raison. Nous en avons fait autant que vous. Adieu. Les lettres qui seront portées par cet ordinaire vous feront voir si nous disons vrai ou non.
Merci Claudette Colbert. Nous avons constaté avec joie que malgré un long séjour aux États-Unis, vous avez conservé une pointe d'accent parisien. Je crois que vous désirez présenter vos vœux aux auditeurs de la radiodiffusion française.
Je suis si heureuse de me joindre à mes camarades de Hollywood qui rendent hommage à notre belle langue française. Et je le fais moi-même avec d'autant plus de cœur que le français est ma langue maternelle. À vous tous, je vous souhaite une bonne et heureuse année.
Merci, Claudette Colbert. Scène du Misanthrope de Molière. Célimène sera
Lily Palmer et je vous souhaite une bonne année.
Et pour cette autre interprétation franco-américaine, Alceste sera
Claude Dauphin. Si c'est vrai comme on dit chez nous que loin des yeux on est près du cœur, vous pensez s'il y a 10 000 kilomètres de distance, je suis près de vous tous, de tout mon cœur, pour vous souhaiter une heureuse année.
D'où vient donc, je vous prie, un tel emportement? Avez-vous, dites-moi, perdu le jugement?
Oui, oui, je l'ai perdu, lorsque dans votre vue, j'ai pris pour mon malheur le poison qui me tue, et que j'ai cru trouver quelque sincérité dans les traîtres appâts dont je fus enchanté.
De quelle trahison pouvez-vous donc vous plaindre?
Oh, que ce cœur est double, et c'est bien l'art de feindre. Mais pour le mettre à bout, j'ai des moyens, tout prêts. Jetez ici les yeux, et connaissez vos traits. Ce billet découvert suffit pour vous confondre, et contre ce témoin, on n'a rien à répondre.
Voilà donc le sujet que vous trouble l'esprit.
Vous ne rougissez pas en voyant cet écrit?
Et par quelle raison faut-il que j'en rougisse?
Quoi? Vous joignez ici l'audace à l'artifice? Le désavouerez-vous pour n'avoir point de sein?
Pourquoi désavouer un billet de ma main?
Et vous pouvez le voir sans demeurer confuse, du crime dont vers moi son style vous accuse.
Vous êtes sans mentir un grand extravagant.
Quoi? Vous bravez ainsi ce témoin convaincant, et ce qu'il m'a fait voir de douceur pour en honte n'a donc rien qui m'outrage et qui vous fasse honte?
Oh, honte? Qui vous dit que la lettre est pour lui?
Les gens qui dans mes mains l'ont remise aujourd'hui. Mais je veux consentir qu'elle soit pour un autre. Mon cœur en a-t-il moins à se plaindre du vôtre? En serez-vous vers moi moins coupable, en effet?
Mais si c'est une femme qui va s'habiller, en quoi vous blesse-t-il? Et qu'a-t-il de coupable?
Ah, le détour est bon. Et l'excuse admirable. Je ne m'attendais pas, je l'avoue, à ce trait. Et me voilà par là convaincu, tout à fait. Osez-vous recourir à ces ruses grossières? Et croyez-vous les gens si privés de lumière? Voyons, voyons un peu par quel biais, de quel air, vous voulez soutenir un mensonge si clair. Et comment vous pourrez tourner pour une femme tous les mots d'un billet qui montre tant de flammes. Ajuster pour couvrir un manquement de foi ce que je m'en vais lire.
Il ne me plaît pas, moi. Je vous trouve plaisant d'user d'un tel empire et de me dire au nez ce que vous m'osez dire.
Non, non, sans s'emporter, prenez un peu souci de me justifier les termes que voici.
Non, je n'en veux rien faire. Et dans cette occurrence, tout ce que vous croirez m'est de peu d'importance.
De grâce, montrez-moi, je serai satisfait qu'on peut pour une femme expliquer ce billet.
Non, il est pour Oronte et je veux qu'on le croie. Je reçois tous ses soins avec beaucoup de joie. J'admire ce qu'il dit, j'estime ce qu'il est, et je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plaît. Faites, prenez parti, que rien ne vous arrête, et ne me rompez pas davantage la tête.
Merci Lily Palmer et Claude Dauphin. Nous avons demandé à une très grande artiste américaine, qui a fait ses études au lycée Victor Duruy à Paris, de dire un extrait d'une très difficile pièce de Jean Cocteau, La voix humaine. Cette voix humaine sera celle de
Céleste Holm. Allô? Pas libre? Ah non, mademoiselle, il me redemande. Bien. Allô? Allô? 0,4,7? Non, pas 6,7. Oh. Allô? Allô, mademoiselle, on se trompe. On me donne le 6. Je demande le 7. 0,4,7. Auteuil. Allô, Auteuil, 0,4,7? Ah oui, c'est vous, Joseph. C'est madame. On nous a coupé avec monsieur. Pas là? Oui. Oui. Il ne rentre pas ce soir? Ah. C'est vrai, je suis stupide. Monsieur me téléphonait d'un restaurant. On a coupé et je redemande son numéro. Excusez-moi, Joseph. Merci. Merci bien. Bonsoir, Joseph. Allô, ah, chérie, c'est toi. On avait coupé. Non, j'attendais. On sonnait, je décrochais, il n'y avait personne. Sans doute. Bien sûr. Tu as sommeil? Tu as bon d'avoir téléphoné. Très bon. Non, je suis là. Quoi? Pardonne, c'est absurde. Rien. Je n'ai rien. Je te jure que je n'ai rien. C'est pareil. Rien du tout, tu te trompes. Le même que tout à l'heure. Seulement, tu comprends, on parle, on ne pense pas qu'il faudra se taire, raccrocher, retomber dans le vide, dans le noir. Alors, écoute, mon amour, je ne t'ai jamais menti. Oui, je sais, je te crois. J'en suis convaincue. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que je viens de mentir. Tout de suite. Là, au téléphone, depuis un quart d'heure, je mens. Je sais bien que je n'ai plus aucune chance à attendre, mais mentir ne porte pas la chance, et puis je n'aime pas te mentir. Je ne peux pas. Je ne veux pas te mentir, mais même pour ton bien. Oh, rien de grave, mon chéri. Ne t'effraie pas. Seulement, je montais en te décrivant ma robe et en te disant que j'avais dîné chez Marthe. Je n'ai pas dîné. Je n'ai pas ma robe rose. J'ai un manteau sur ma chemise. Parce qu'à force d'attendre ton téléphone, à force de regarder l'appareil, de m'asseoir, de me lever, de marcher de long en large, je devenais folle. Folle. Alors j'ai mis en manteau et j'allais sortir, prendre un taxi, me faire mener devant tes fenêtres pour attendre. Eh bien, attendre je ne sais quoi. Tu as raison. Si, je t'écoute. Je serai sage. Je t'écoute. Je répondrai à tout, je te jure. Ici, je n'ai rien mangé. Je ne pouvais pas. J'ai été très malade. Hier soir, j'ai voulu prendre un comprimé pour dormir. Je me suis dit que si j'en prenais plus, je dormirais mieux. Et que si je les prenais tous, je dormirais sans rêve, sans réveil. Je serais morte. J'en ai avalé 12. Dans de l'eau chaude. Comme une masse. Et j'ai eu un rêve. J'ai rêvé ce qui est. Je me suis réveillée en sursaut, toute contente, parce que c'était un rêve. Et quand j'ai su que c'était vrai, que j'étais seule, que je n'avais pas la tête sur ton cou et sur ton épaule, et mes jambes entre tes jambes. J'ai senti que je ne pouvais pas. Que je ne pouvais pas vivre. Légère. Légère et froide.
et je ne sentais plus mon cœur battre, et les morts étaient longues à venir, et comme j'avais une angoisse épouvantable, au bout d'une heure, j'ai téléphoné à Marthe. Je n'avais pas le courage de mourir seule. Chérie, il était 4 heures du matin. Elle est arrivée avec le docteur qui habite son immeuble. J'avais plus de 40. Il paraît que c'est difficile de s'empoisonner et qu'on se trompe toujours de dose. Le docteur a fait une ordonnance et Marthe est restée près de moi jusqu'à ce soir. Je l'ai suppliée de partir parce que tu avais dit que tu téléphonerais une dernière fois et j'avais peur qu'on m'empêche de parler. Très, très bien. Plus du tout. Si, c'est vrai. Peu de fièvre. 38,3. C'était nerveux. Ne t'inquiète pas. Que je suis maladroite. Je m'étais juré de ne pas te donner d'inquiétude, de te laisser partir tranquille, de te dire au revoir comme si nous devions nous retrouver demain. On est bête. Si, si, bête. Ce qui est dur, c'est de raccrocher. De faire le noir. Allô? Je croyais qu'on avait coupé. Tu es bon, mon chéri. Je voudrais vous souhaiter une très bonne année.
Merci, Celestron. Un artiste que vous connaissez tous et qui ne parle pas un seul mot de français, va faire une imitation phonétique d'une scène des fourberies de Scapin de Molière. Scapin sera phonétiquement interprété par...
Danny Kaye.
Et Géronte sera...
Marcel Dalliot.
C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement, au moyen de sauver de fer, un fils que vous aimez avec tant de tendresse.
Que diable allait-il faire dans cette galère?
Il ne songe pas à ce qui est arrivé.
Va-t'en, Scapin. Va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui.
La justice en plein mer. Vous moquez-vous des gens?
Que diable allait-il faire dans cette galère?
Une méchante destinée conduit quelquefois... les personnes.
Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle.
Quoi, monsieur?
Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mettes à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande.
Eh, monsieur, songez-vous à ce que vous dites et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils.
Que diable allait-il faire dans cette galère?
Il ne devinait pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné Que 2 heures?
Tu dis qu'il demande...
500 écus.
500 écus? N'as-tu pas de conscience?
Vraiment, oui. De la conscience à un Turc?
Sais-tu bien ce que c'est que 500 écus?
Oui, monsieur. Il sait que c'est 1 500 livres.
Croit-il, le traître, que 1 500 livres se trouvent dans le patagenal?
Ce sont des gens qui ne tendent point de raison.
Mais qu'est-ce qu'il y a de faire dans cette galère?
Il est vrai, mais quoi? On ne prévoyait pas la chose. De grâce, monsieur, dépêchez.
Merci Daniquet et Marcel Daliot. Marcel Daliot.
Je veux vous assurer que tous mes camarades américains ont été très heureux comme moi-même de participer à ce programme et d'avoir ainsi l'occasion d'exprimer leurs sentiments pour la France. Sentiments que je connais fort bien, étant en train de travailler avec eux dans les studios d'Hollywood. Bonne année à tous les auditeurs de la radiodiffusion française.
Merci Daliot. Daniquet, vous pouvez, si vous le voulez, présenter vos vœux en anglais.
Bonne année à tous. Happy New Year, ladies and gentlemen, and to you, Maurice. We're delighted and proud and very happy. Both Bill and I are extremely excited about the fact that we're going to do your life, and I couldn't be more pleased because since I consider you one of the world's great, great entertainers, it is a very, very high compliment to me indeed that we're going to be able to portray your life. I do hope that we'll be able to see you very soon and get together and discuss this, and I'm very, very anxious to see you the minute I get to Paris.
Merci, Daniquet. Daniquet a adressé un message à Maurice Chevalier, disant qu'il est très fier et très heureux de le personnifier dans un film sur sa vie, parce qu'il considère Maurice comme un des plus grands artistes. Daniquet s'estime flatté d'incarner le personnage de Maurice Chevalier. Merci encore, Daniquet. Monsieur Pierre Descaves, administrateur général de la Comédie-Française, va, en votre nom et en celui des auteurs de notre répertoire classique, de Molière à Cocteau, remercier nos amis qui ont participé à ce programme. Monsieur Pierre Descaves.
La Comédie-Française est très sensible à l'hommage et à l'honneur que lui rendent les grands artistes américains qui ont incarné les rôles du répertoire étincelant dont est la mission de maintenir l'éclat dans une tradition de durée et de renouveau. De tous les arts littéraires, le théâtre est celui qui permet au plus grand nombre d'hommes de se reconnaître entre eux avec le plus de vérité ou de précision sur les grands noms issus de la scène, que ce soit Tartuffe, Phèdre, Madame Sangène, Cyrano de Bergerac, autant de noms à résonance infinie. Ces héros de théâtre ont vécu et vivent encore au-delà de ceux qui les interprètent. Mais le miracle, c'est ce relais éternel des voix humaines qui prêtent leur timbre à la vie et même à la survie de ces rôles. La présentation de nos amis américains confirme cette notion que le répertoire de la Comédie-Française est à la fois ce qu'il y a de plus intime en nous, de plus unanimement reconnu comme nôtre, d'une part, mais aussi, d'autre part, de ce qu'il y a de plus universellement valable. Depuis 3 siècles, un autre miracle, un miracle français, et rien n'a pu altérer ce répertoire unique au monde. Molière, Racine, Corneille, Beaumarchais demeurent nos contemporains. Depuis 300 ans, c'est dans ce miroir non terni de notre théâtre que l'on retrouve le visage toujours jeune de la France.
Merci, Monsieur Pierre Descaves. Nous voici donc maintenant à la comédie tout à fait française. Et c'est au nom des comédiens français qui, pour quelques instants, ont laissé leur rôle à leur frère d'art américain que M. Denis Dinès, doyen des sociétaires, adresse ce message.
Chers camarades, c'est une grande joie pour nous et un très grand honneur pour les lettres françaises et pour la comédie française que vous ayez pensé à interpréter les grandes scènes de notre répertoire comique et tragique. Avec cette émotion, avec cette sensibilité, cette profonde connaissance de l'humanité, cette simplicité qui vous appartient et que nous reconnaissons, que nous admirons, hélas, trop peu dans les pièces que vous interprétez sur les théâtres, mais dans les films qui passent couramment sous nos yeux, je vous remercie de pouvoir faire passer par-delà les océans un écho de notre grand répertoire.
Merci, monsieur le doyen. Nous sommes aussi heureux d'accueillir la grande artiste qu'est madame Béatrice Bretty.
Mes chers camarades américains, c'est une voix féminine qui vient simplement s'ajouter à celle de l'administrateur général et du doyen de la Comédie française. Elle ne peut que vous répéter ce que vous venez déjà d'entendre. Vous nous avez fait, vous avez fait à la France un très grand honneur en vous unissant tous, en unissant à la fois tant de talent et tant de gloire pour interpréter quelques-unes des scènes du répertoire de la Comédie française et qui sont parmi les plus brillantes de notre littérature. Je puis vous assurer que nous en éprouvons une immense fierté. Je vais maintenant vous faire un aveu, une confidence. Je ne connais pas les États-Unis d'Amérique et je rêve parfois d'aller les visiter en compagnie des sociétaires qui sont ici mes camarades. Nous en profiterions pour interpréter à notre tour, devant vous, quelques-unes de ces pièces classiques qui vous ont tenté. Nous vous présenterions notre maître et notre patron, Molière. Molière qui veille sur les destinées de la Comédie française, de cette grande maison qu'il a fondée. Je sais bien que mon rêve est ambitieux, mais sans rêve, que serait la vie? En tout cas, cela me permet aujourd'hui, avec toute l'émotion que j'éprouve à vous parler, à m'adresser à vous, de vous dire, non pas adieu, non pas même au revoir, mais à bientôt, peut-être.
Merci, madame. Je voudrais, avant de conclure, remercier tous ceux, Français et Américains, qui nous ont permis de grouper sur les antennes françaises, dans un même programme, les plus grands noms de la scène et de l'écran. Je voudrais exprimer ma reconnaissance pour l'accueil que j'ai reçu à Hollywood, aux artistes, au studio Paramount, 20th Century Fox, Warner Brothers et à la Motion Picture Association of America qui m'a ouvert toutes les portes. Je voudrais maintenant, à mon tour, vous présenter mes bons voeux et, si je peux en exprimer un, que la France soit pour vous toujours aussi belle et aussi grande qu'elle l'est pour nous, qui la représentons un peu ici, sur cet autre continent. Nous avons, avec Michel Morgan et Charles Boyer, au début de ce divertissement, célébrer la beauté et essayer de reprendre conscience de ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, Charles Péguy le dit. Par la voix de Louis Jourdan.
Et non seulement Paris, mais autour même de Paris. Entoure les environs. Il est heureux pour le monde moderne qu'on lui ait fait Versailles, et même Saint-Germain, qu'on lui ait fait et qu'on lui ait gardé pour les lui donner. Tous ces admirables et parfaits vallonnements de l'Île-de-France, le très parfait Soissonnais. non pas seulement tant de hautes et profondes forêts, mais le pays aux lignes admirables, où des étangs et des marais savent être plus parfaitement beaux que des lacs. Le pays aux plans parfaits, aux courbes et ondulations parfaites, aux lignes presque planes, parfaites, aux descentes admirables, aux descentes presque sans montée, aux descentes qui sont des descensions, aux lignes de repos et d'action, aux lignes de beauté, aux lignes parfaitement nobles. Le pays de Racine et de la Fontaine. Pays des vallonnements et des toisonnements et des moutonnements sans fin. Tous également veloutés, tous également doux. Toisons moutonneuses des lichens et des mousses vêtant les toits des maisons. Toisonnement des bois, des moissons, des foins vêtant le sol. Toit de la terre. Le vermandois, la thiérache, le tardenois, fer en tardenois, le plus beau pays d'avant le jugement. Que de tout cela on lui ait fait et gardé pour lui commettre ce monument unique au monde, la France.
Venez d'entendre la comédie presque française, un divertissement de Pierre Crenès. Avec Claudette Colbert, Marlène Dietrich, Audrey Hepburn, Céleste Holm, Lily Palmer, Louise Renner et Ginger Rogers. Avec Jacques Bergerac, Charlie Chaplin Jr., Marcel Dalliot, Claude Dauphin, Jean Davy, sociétaire de la Comédie Française, Melvin Douglas, Douglas Fairbanks Jr., Danny Kaye, Rémy Lan, Vincent Price et Edward G. Robinson. Message de M. Pierre Descaves, administrateur général de la Comédie Française. M. Denis Dinès, doyen des sociétaires. Et Madame Béatrice Bretti, doyenne des sociétaires. Mise en onde et texte de Pierre Crenès. Assistante de production, Marina Kobzeff. Producteur à Paris, Jacques Régnier. Et à Londres, Jacques Salbert. Avec la collaboration à Hollywood de Kira Appel. Introduction de Michel Morgan et Charles Boyer. En voix de Louis Jourdan. C'était une présentation de Pierre Crenès.
L'émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 1er janvier 1954. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».
Under the house, lose the button from your blouse, lose the plastic diamond ring from the parade, lose the color in your lips, lose the swinging in your hips. But if you lose me in your grips, I must be saved. Lose the harmonies we learned, lose the taste of bread you earned, lose the stash you always kept but never craved. Lose your rhythm, lose your lines, lose your sense of passing time. But if you lose me in your mind, I must be saved. And if you find your conscience plagued by some misplaced or righteous rage, then lose yourself instead, till you remember to forget. Armor in the struggles that you brave. Lose the children that you bore, lose the battle, lose the war. But if you lose me in your core, I must be saved. Lose your reverence for winners, your patience with forgiveness. You don't have to be a master or a slave. Lose your senses, lose your mind, lose your faith in humankind. But if you lose me down the line, I must be saved. And if you find your conscience plagued by some misplaced or righteous rage, then lose yourself instead, till you remember to forget. Lose perfection for a start, lose the dream you kept apart, lose the chance to find another who behaved. And then if you haven't yet, lose your loser's last regret. For if you lose me in your net, I must be saved. Lose the vows we never spoke, lose the punchline to the joke. Lose your innocence as if willingly you gave. Lose the kettle and the pot, you can lose the best you've got. But if you lose me in your heart, I must be saved.